take 60 seconds to finish up, please. 60 seconds.
Vous avez quelques secondes pour finir. 16 secondes. 60 secondes, pardon. Bien, vous devez conclure, s'il vous plaît. Bien, s'il vous plaît, il vous faut conclure. Est-ce que je peux avoir vos conclusions, s'il vous plaît? Bienvenue à tous. C'est toujours un bon signe quand les gens prennent la parole. Je voudrais voir un petit peu et essayer d'obtenir une demi-douzaine d'idées de ce que vous considérez comme étant le plus important, un classement dans l'ordre, du plus important au moins important. De ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Nous allons essayer de ne pas perdre trop de temps avec ça. Donc, ici, nous en avons un. Bien, nous avons besoin d'un micro ici. Bonjour, je suis Andrea, je suis de Costa Rica. Nous avons travaillé sur la catégorie numéro 1. Le manque d'ordre du jour. Numéro 3, le manque de répartition des tâches, parce que beaucoup de gens doivent faire une chose, ils ne veulent pas le faire. Numéro 4, le fait de se taire, c'est un problème. Les gens ne veulent pas participer, ils ne veulent pas dire leur avis, donner leur opinion. Le numéro 5 est très important, s'il vous plaît. Le buste que j'ai nommé en premier lieu et serait le numéro 5. Bien. Alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans vos réunions? Marcelo Teres. Je parle en espagnol. Mais c'est écrit en anglais. La clarté de l'objectif de la réunion et préciser clairement les objectifs de la réunion. Il est important aussi d'évaluer le contexte. Évaluer le contexte, donc. Tout ça, ce sont des situations qui sont positives, bien sûr. Et faire participer tout le monde au même niveau. C'est aussi un plus, ça c'est aussi un avantage, un point fort. Bien, ici, la parole, vous avez la parole, oui. Bien, merci. En ce qui concerne les réunions, les discussions pour les réunions et les panels de discussion. L'important, c'est d'avoir un très bon président, quelqu'un qui puisse faire participer tout le monde, faire parler tout le monde et qui peut mener la discussion, quelqu'un qui oblige tout le monde à respecter le temps, parce que très souvent dans les discussions, c'est le problème. Les gens, on n'a pas le temps de finir, de respecter l'ordre du jour. Donc, quelqu'un qui permette à l'équipe de respecter l'ordre du jour au niveau du temps. Encore une opinion, si vous voulez. Et je vais parler en espagnol. Je suis Fatima Cambronero. Je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit, donc je vais mentionner autre chose. Quelque chose qui fonctionne, c'est le fait que les organisations, les réunions des groupes de travail soient faites dans la même langue. Ça permet d'avoir un groupe de travail plus dynamique et ça permet d'atteindre des résultats plus concrets de manière plus rapide. Une chose qui ne marche pas, par contre, c'est lorsqu'on établit les réunions des groupes de travail à des horaires fixes, à travers des conférences téléphoniques, un horaire fixe, un jour fixe, et à cause donc du décalage horaire, hein, en fonction des différents pays, hein, en fonction du fuseau horaire, hein, la réunion a lieu à un moment donné où cette personne doit travailler ou en pleine nuit. Donc, cette personne voudrait participer au groupe de travail, mais ne peut pas à cause des horaires. Donc, comme suggestion, je proposerai qu'on fasse des groupes, hein, et des horaires de réunion à des dates et à des horaires changeants, hein, qui changeraient. Merci. Donc, vous voyez ici que ces contributions sont très intéressantes. J'espère que nous allons pouvoir vraiment conserver toutes ces suggestions. Je n'ai peut-être pas donné assez de temps à ce qui concerne les réunions virtuelles. Pourquoi? Eh bien, parce que le principe, hein, et que nous allons aborder sont aussi efficaces pour les réunions présentielles que pour les réunions virtuelles. Hein. Donc, en ce qui concerne ce que Fatima a dit, un exemple, hein, pour les réunions virtuelles est ce qu'on appelle le fait de partager les difficultés. Donc, beaucoup de groupes, beaucoup de comités sont d'accord pour avoir des horaires différents, changeants, pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui doit se lever à 3 heures du matin. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui vont couvrir, qui vont concerner le travail dans les réunions virtuelles. Voyons la prochaine diapo. Bien. Ici, voilà la raison. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai mis ce numéro 1, parce que je pense que dans notre classification, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, il faut faire des accords, hein, concernant le processus, hein, et la recommandation que je vous propose, c'est lorsque vous commencez à travailler avec un nouveau groupe, une nouvelle équipe, il faut d'abord dire comment nous voulons nous conduire dans ce groupe, par exemple. Mettons-nous d'accord pour qu'une personne, qu'on respecte la personne qui parle et qu'on ne parle pas en même temps qu'elle. Écoutons soigneusement ce que dit la personne. Si on ne comprend pas bien, et demandons des précisions, mettons-nous d'accord pour avoir une personne qui va être le modérateur de la réunion, et cela pour chaque réunion. Voilà ce que l'on appelle des accords, hein, de processus de travail. Carlton Samuel, je ne veux pas aborder le problème de la participation dans les réunions, etc. Mais je voudrais recommander ici quelque chose. La nature de la connaissance, hein, du travail sur la connaissance demande une certaine réflexion. Et c'est ce que nous faisons, nous, ici. Hein. C'est notre travail. Donc, une téléconférence est un contexte de devoir. Le travail de connaissance qui est requis vous demande que vous parliez de votre réflexion, hein. Et c'est pour ça que nous avons deux outils de travail pour travailler, hein. Et c'est pour cela que, personnellement, moi, je préfère écrire, hein. C'est pour ça que nous avons les wikis, hein, qui vous permettent d'écrire vos réflexions, vos propres réflexions. Et nos équipes, hein, travaillent pour que tout cela soit à la disposition de tout le monde et nous envoie ces réflexions. Donc, moi, j'ai ici un petit problème. Quand on dit qu'on utilise la téléconférence comme... ce n'est qu'un moyen pour travailler, finalement. Les conférences qu'on a aux Nations Unies, etc. Le véritable travail ne se fait pas au cours de ces réunions quand on est devant le micro. Le véritable travail se fait avant d'arriver à la réunion. Ça demande, ça exige, hein, des gens et qu'ils lisent les documents, qu'ils résument ces documents, qu'ils écrivent quelque chose. Hein, la personne qui participe à la téléconférence, qui parle, hein, blablabla, blablabla. Hein? Elle ne veut pas travailler. Elle ne veut pas travailler durement. Hein? Parce que ce travail, hein, le travail qui est efficace, il doit être fait avant de prendre la parole. Ça, c'est la nature du travail concernant la conséquence. Bien. Alors, revenons un petit peu à ce que je disais ici par rapport à ce que vous venez de dire. Un exemple concernant les accords de processus, hein, que vous allez décider au cours de la première réunion. Vous allez vous mettre d'accord pour que tout le monde soit préparé pour que, lors de la prochaine conférence, tout le monde ait lu les documents et réfléchi sur ces documents et préparé le travail qu'il fallait faire, puisse parler de ces documents, être apte à parler de ces documents parce qu'ils ont lu ces documents. Voilà. Ça, c'est donc ce qui nous intéresse ici et c'est de ça que... De ça que je parle quand je parle de l'accord concernant les processus. Bien. Oui, Fatima, je suis d'accord, Carlton, avec ce que vous dites. Il faut participer à la réunion et avoir lu les documents et avoir fait le travail que nous devions faire. Mais rappelez-vous que ALAC établit des paramètres quant à la participation dans les groupes de travail ou quant à la participation aux téléconférences. Aux conférences téléphoniques. Donc, le travail doit être fait avant. Et pour ALAC, il faut participer aux conférences téléphoniques aussi, parce que sinon, le président nous gronde. Donc, on a deux choses hein, ici. Il faut, si l'on veut participer, il faut faire le travail préalable de préparation, mais il faut aussi participer à la téléconférence, non seulement pour parler, mais aussi pour pouvoir apporter quelque chose à la réunion par rapport à ce qu'on a lu. Encore un commentaire et on continue. Votre nom, Alberto Soto. Je suggère que l'on puisse continuer à avancer sans interrompre la personne qui est en train d'essayer d'organiser toutes les deux minutes. Hein. Merci. J'ai aussi l'impression que les commentaires que vous faites sont une tentative pour essayer de mettre en œuvre des idées. Donc, je voudrais trouver un équilibre entre finir à l'heure et vraiment aborder tous les problèmes. Et je pense que vos contributions sont très intéressantes aussi, hein, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un participant à distance? Mad Ashiani, nous avons un commentaire. ALAC est une structure compliquée ou dans laquelle le consensus peut être en contradiction avec ce que les ALS ont décidé ensemble, non? Bien, bon. Nous allons maintenant continuer à avancer et cette première diapo, le consensus est construit au sein des réunions et des rencontres. Alors, les réunions et les rencontres, c'est lorsque deux ou plus personnes se réunissent pour dans un objectif précis, non? Donc, si je vous invite à dîner, mettons, et si nous sortons et nous bavardons et nous parlons de notre famille, c'est pas une réunion. Mais si je vous invite à dîner et que l'objectif spécifique que j'ai pour ce dîner est de parler du travail de notre comité, à ce moment-là, dans ma définition, oui, c'est une réunion. Hein. La différence ici est basée sur le fait que la réunion doit avoir des règles hein, bien précises et si on les respecte, les choses vont avancer. Avancer, ça veut dire que l'on va atteindre un résultat, obtenir un résultat. Donc, si on veut avoir un consensus, si l'on veut comprendre, si on doit comprendre comment fonctionne une réunion et ça va nous aider. Voilà. Bien. Alors, point numéro 2. La réunion commence par un ordre du jour. Une réunion effective commence par un ordre du jour. Je ne veux pas que ce soit considéré comme des critiques. Hein. Ce sont des conseils que je vous donne ici. Hein. Donc, une chose, c'est si dans votre ordre du jour, vous avez seulement des thèmes, des points, ça ne va pas être aussi utile, aussi efficace que si vous avez un thème d'agenda à accompagner par l'objectif que l'on veut atteindre. Voyons, disons cela d'une autre façon. Mettons qu'on regarde notre ordre du jour et l'ordre du jour dit, nous allons d'abord parler de ce premier point, puis nous aborderons le deuxième point, voilà le deuxième point dont nous allons parler, etc. Si je suis un participant, je ne sais pas très bien ce que l'on attend de moi-même. Quelle est la conclusion? Quel est l'objectif de ce point de l'ordre du jour? Et donc, mon conseil, c'est un conseil que j'aimerais que vous considériez. Lorsque vous faites votre ordre du jour, assurez-vous que tous les points de l'ordre du jour ont les objectifs souhaités à côté, non? Comme ça, c'est un conseil que je vous donne. Hein? Ça, on parlera un petit peu plus des souhaits, hein, des désirs à atteindre, hein, des objectifs à atteindre un petit peu plus tard. Mais je sais que cela est très... Il y a quelque chose d'autre qui est très efficace et qui est le partage des rôles. Hein, s'assurer qu'on a un rôle différent dans la réunion. Hein, une réunion complexe, hein, une réunion qui n'est pas un bavardage de 10 minutes au téléphone. Hein, c'est un groupe de travail ou une réunion de comité. Hein, vous devez avoir des rôles différents. Le premier rôle est celui du président. Le président est responsable des résultats. Par conséquent, le président, hein, les yeux du président, les oreilles du président doivent être sur le fait, est-ce que nous atteignons les objectifs de notre ordre du jour. Le deuxième rôle, c'est celui du modérateur. Et le modérateur, son rôle est de s'assurer que la réunion avance correctement. Et donc, un modérateur est le chauffeur de votre réunion. C'est lui qui va s'assurer que le bus va arriver à bon port, hein, et que tout le monde participe à la réunion. Donc, vous êtes au téléphone, hein, mettons, le modérateur peut appeler les gens par leur nom, et dire « Eh, monsieur Untel, vous voulez contribuer ?» Et le président peut demander ce que nous arrivons à l'objectif voulu. Le modérateur va voir si tout le monde participe, etc. Et puis, il y a deux autres rôles qui sont importants. Si ces personnes sont là, c'est bien. Sinon, peu importe. Toutes les réunions devraient avoir une personne qui s'occupe de faire respecter le temps de la réunion. Il y a des groupes, hein, lorsqu'on a un modérateur, qui va voir ce qui se fait, hein, et qui va être aidé par la personne qui est donc contrôle le temps. On a constaté que les groupes, lorsqu'on avait ce modérateur et la personne qui fait contrôler le temps, les groupes respectent beaucoup plus l'ordre du jour. Hein. Si ce n'est pas le cas, il est très facile d'être en retard, de tomber dans de se bloquer dans des discussions sans fin. Donc la personne qui marque le temps, qui contrôle le temps, va vous dire il ne vous reste plus que 7 minutes pour ce point de l'ordre du jour. Hein. Ils vont créer un petit peu de ce sentiment d'urgence, hein, auprès des participants. Et puis, la dernière personne est la personne qui va faire le résumé, la synthèse de ce que les personnes ont dit. C'est un peu un rapporteur de la réunion, l'essence de ce qui a été dit, point par point, au cours de cette réunion. Donc, on a différents rôles. On en a quatre rôles différents. Et le dernier rôle, hein, et toujours, ce sont des suggestions, hein, et c'est peut-être le point pour lequel vous aurez besoin d'un petit peu plus de formation, et c'est la capacité de lier un outil ou les outils de processus à votre ordre du jour. Les relier. Par exemple, un groupe se réunit, essaye de trouver différentes façons de résoudre un problème, et le premier point de leur ordre du jour est essayons de faire une liste des différentes manières d'aborder ces problèmes. Et donc, les outils, le processus de ces outils, hein, vont s'appeler l'élaboration d'une liste. Hein. Il y a de nombreux outils de processus. Chacun appartient à une catégorie. On les appelle ouverture, pour ouvrir la conversation, et précision pour préciser la conversation, et le dernier qui est la conclusion. Donc, ce sont des outils qui permettent d'ouvrir la conversation, de préciser la conversation et de conclure la conversation. Je vous dis tout cela, sachant bien sûr que nous aurons besoin de davantage d'études, hein, que tout le monde, vous aurez besoin d'un petit peu plus de précision là-dessus, mais il faut savoir utiliser le bon outil au bon moment, et ça, c'est très important. Bien. Alors, ici, le consensus, hein, faire une liste hein, et savoir construire un consensus. Nous sommes dans une réunion. Le président dit, d'accord, eh bien, nous avons maintenant 15 propositions différentes sur la façon dont nous allons résoudre ce problème en particulier. Et je voudrais maintenant parvenir à un accord au cours des 10 prochaines minutes. Alors, comment faire? La première chose que l'on peut faire, c'est de s'assurer que tout le monde a bien compris l'objectif. Ce sera inclus hein, dans l'écoute, hein, s'assurer qu'on a bien compris ce que les gens proposent. Ensuite, autre chose que l'on peut faire, c'est que permettre aux gens de dire je vois qu'il y a ici plusieurs possibilités qui pourraient être regroupées. C'est l'agrégation. Alors, ce qu'on peut faire ici, on écoute les objectifs et on fait des suggestions pour pouvoir déplacer un petit peu la configuration d'un côté ou de l'autre hein, et regrouper comme ça les choses. Les membres peuvent avoir une influence sur la réunion à tout moment. Bien. Une question. Combien d'entre vous ont participé à une réunion au cours de laquelle vous avez vraiment l'impression qu'on n'allait nulle part hein? Bien. Combien d'entre vous ont participé à une réunion au cours de laquelle ils avaient l'impression qu'on ne suivait pas du tout l'ordre du jour? Bien. Donc, tout le monde sait hein, qu'il y a des péchés, hein, les péchés les typiques de la réunion, les 7 péchés de la réunion. Vous êtes assis là. Hein, combien d'entre vous se sont sentis mais vraiment impuissants face à la situation? Vous ne savez pas comment résoudre cette situation. Bien, alors je vais vous donner quelques suggestions. Un membre d'un groupe peut influencer la réunion en faisant une série de petites choses. Ce sont des choses très simples que l'on peut faire, qui vont aider la réunion, la progression de la réunion. Si on ne sait pas vers quoi va la réunion, il faut demander où allons-nous, vers quoi, quel est l'objectif de cette réunion, où en sommes-nous. Je suis perdu. Je suis perdu dans tous ces détails. Et où en sommes-nous dans le processus? Donc, la première chose hein, que l'on peut faire en tant que membre, c'est d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que peut-être, pas seulement vous, mais d'autres aussi, d'autres personnes aussi se sentent perdues. La deuxième chose que vous pouvez faire, ça pourra influencer la réunion, c'est de dire quel est notre désir comme résultat hein, pour ce thème en particulier. Vous pouvez rappeler au groupe qui a un désir concernant le résultat de la réunion, hein, ou vous pouvez demander quel était notre objectif? Vers quoi hein? Quel était le point que nous voulions obtenir à travers cette réunion? Ensuite, la troisième chose que vous pouvez utiliser, hein, que vous pouvez faire, c'est demander comment est-ce qu'on va savoir qu'on a atteint notre objectif, qu'on a conclu hein, notre réunion hein? Comment on va se rendre compte que notre réunion a été une réussite? Très souvent, j'ai participé à des réunions hein, au cours desquelles on a eu des discussions, mais on n'a jamais très bien compris pourquoi, donc hein, quel a été le résultat. Donc, vous avez un certain pouvoir dans une réunion. Et en tant que membre de cette réunion, si vous sentez que la réunion est que vous allez quitter la réunion sans rien, sans aucun résultat, hein, c'est parce que vous n'avez pas assez participé à la réunion. Une façon rapide de participer à la réunion, c'est de demander des précisions, par exemple. D'accord? Bon, donc ici, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a besoin de précisions sur ces 3 dernières diapos que nous venons de vous montrer? Ou est-ce que vous auriez des exemples hein, à nous donner sur ce type de situation? Levez la main et dites-le nous. Allez-y. Wolf Ludwig de At Large. Je voudrais une question concernant le travail du rapporteur. Je voudrais poser une question concernant le travail du rapporteur. Hein, faire un compte-rendu d'une réunion, parce que je suis toujours confrontée à différents types d'attentes. vous parlez donc de ce du concept selon lequel il devrait y avoir une synthèse de ce qui a été dit au cours de la réunion et que cela puisse refléter le contenu de la réunion. Comme les gens le disent, si je suis confrontée à ces comptes rendus de 3 à 5 pages de la réunion, je ne regarde jamais. Hein? Donc, les résultats qui sont notés, hein, s'ils ne sont pas... sont intéressants seulement dans le cas, en cas de conflit. Hein, ce compte-rendu n'est intéressant qu'en cas de conflit. Sinon, les gens ne vont pas s'y reporter ni faire allusion à ce compte-rendu ou à ce travail réalisé, cette synthèse réalisée par le rapporteur. Alors, la réponse. D'abord, si vous devez faire une transcription de la réunion, il est important que ce compte-rendu soit fait. Mais si... c'est un membre de la réunion qui doit le faire. C'est important, à mon avis, de faire une petite synthèse des décisions et des points à suivre. C'est la seule chose que je veux voir si je suis un membre de la réunion, c'est un résumé, hein, des points à suivre, qui est responsable de quoi, et ensuite, s'il y a des décisions qui ont été prises, quelles sont ces décisions? C'est ce que je suggère, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez de toute façon négocier cela lorsque vous allez élaborer les règles de vos réunions, hein, dans votre groupe. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bien, donc nous continuons. Merci. La prochaine diapo. Bien, donc le fait de reconnaître que certains de ces concepts sont nouveaux pour vous, hein, et comme je le reconnais, j'ai sélectionné les concepts les plus importants, et parmi ces concepts, et le plus important est la construction de consensus. Ce consensus découle toujours du fait de respecter du respect de 3 étapes, de 3 phases, hein, qui forment ce processus de formation de consensus. Le premier, c'est l'ouverture. Lorsque la conversation commence, lorsque les personnes expriment leur opinion, c'est le moment où les gens vont dire « Bon, voilà, ça, c'est mon opinion à ce propos. » Ensuite, dans la phase, donc dans cette même phase d'ouverture, il est nécessaire d'avoir une bonne conversation des désirs, hein, des membres de la conversation, hein. Donc, lors de cette phase d'ouverture, il faut déclarer où est-ce qu'on veut aller, quelle est la destination finale. Ensuite, il y a la phase de précision au cours de laquelle on va prendre les idées, les points de vue et on va essayer de diminuer leur nombre, hein. On appelle ça donc la précision des choix. Et la dernière chose, c'est la conclusion de la conversation en utilisant la méthode de prise de décision. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce concept pour qu'on continue à avancer. Donc, voilà, ce sont des outils que le modérateur ou que le président utilise lorsqu'on ouvre la conversation. Hein. Ces outils sont la liste contenant les différentes façons d'aborder ce problème. Hein, et donc, ensuite, les critères, la génération de critères, c'est un outil. La génération de critères, ça veut dire que la façon dont nous allons parvenir à une décision va être en développant des critères objectifs. Donc, essayons de faire une liste de ces critères objectifs qui seront utilisés pour analyser toutes les solutions et ensuite pour préciser. Alors, quel serait un critère objectif? Hein, le budget, par exemple. Le temps serait un critère objectif. Ça signifie quelque chose qui réponde aux valeurs de d'ICANN serait aussi un critère objectif. Hein, vous connaissez le travail de Remue Ménage, le brainstorming. Il ne faut pas juger, critiquer ou évaluer les idées pendant, au cours de, donc, du brainstorm, du travail, donc, de remue-ménage. Voilà le mot qu'on utilise en français. Donc, vous savez qu'au cours d'une réunion, quelqu'un dit « Oui, je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou pas, mais il me semble en tout cas. Hein. » Et ça, c'est un petit peu la tentative des hypothèses, ou les hypothèses tentatives, pardon. Et donc, on parle de l'ouverture de notre réunion avec tous ces points que nous venons donc de mentionner. Et ensuite, on passe au point numéro 4, à l'étape suivante, comment donc préciser les choix? Il y a donc des outils pour ce travail, faire ce travail de précision. Si je suis un modérateur et que je vois qu'il y a des désaccords, des opinions solides qui sont tout à fait opposées, ce que je vais faire, je vais proposer de prendre 10 minutes pour que les gens défendent leur position. Donc, ça va légitimiser l'opinion des gens, leur permettre de donner leur opinion, de défendre leur opinion. Hein. Voilà. Il y a un outil que l'on appelle processus de groupe nominal. Hein. Si vous rentrez sur, si vous lancez cette recherche sur Internet, vous allez voir que c'est un outil très utile lorsqu'on essaye de préciser, de diminuer, de réduire une liste. Mettons qu'on ait 35 idées différentes et qu'on essaye de diminuer hein, ce nombre d'idées. Alors, ce que vous allez faire, vous allez donner à chaque personne, vous allez prendre 35 divisé par 3. Ça va donner 12, hein, environ 12. Bien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez donc avoir 12 votes pour les choses qui paraissent les plus importantes dans cette liste. Et ça va nous permettre de réduire le nombre de préférences qui sont sur la liste et d'avoir une idée sur le consensus, hein, où se trouve le consensus. Et puis la dernière, c'est les comptes. Hein, prendre un morceau de papier avec des plus d'un côté, une colonne de plus d'un côté, colonne de moins de l'autre côté, risque et avantage, etc. Donc deux opposés dans une colonne chacun, hein, et que les gens donc placent leur chaque idée dans une des deux colonnes. Hein. Donc voilà, ce sont différents outils hein, qui sont à votre disposition. Vous avez beaucoup d'outils donc pour aborder les préoccupations, etc. Hein. Et une chose qui est importante, c'est et que vous avez beaucoup d'outils qui sont à votre disposition. Donc, faire hein, les objectifs concernant la formation de compétences hein, pourraient être augmenter votre connaissance de ces outils, par exemple, dans le groupe de At-Large ou de ALAC. Bien. S'il vous plaît, oui. Je voudrais juste poser une question sur la diapo précédente. Qu'est-ce que c'est ce processus de groupe nominal? Oui, c'est un processus qu'on appelle aussi autrement. Et c'est donc le processus dont je parlais tout à l'heure. Bien. Alors, savoir quelle est la méthode de prise de décision que vous allez utiliser. Voyons. J'ai constaté, hein, à travers les 4 réunions d'ICANN auxquelles j'ai assisté, je constate que beaucoup de groupes ne savent pas ce que signifie vraiment le mot consensus. Le mot consensus, ça veut dire que les personnes qui sont qui appartiennent au processus de prise de décision et de négociation doivent parvenir à un consensus, c'est-à-dire une décision qui permet à tout le monde d'être d'accord et que tout le monde accepte de mettre en œuvre. C'est ça, un consensus. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord profondément, mais ça veut dire que tout le monde... Ça ne veut pas dire que tout le monde pense que c'est merveilleux, parfait, la meilleure solution du monde et la meilleure solution. Non, c'est une vision pragmatique de la prise de décision. Il y a différentes façons de parvenir à une prise de décision. Alors, passons à la diapo suivante. Ici, vous voyez différentes façons hein, de prendre une décision. On a un accord unanime qui est une méthode de prise de décision. On peut dire que l'on veut hein, parce que c'est un problème tellement important. On veut vraiment s'assurer que tout le monde est d'accord. Donc, on veut un accord anonyme. Ça, c'est une façon de prendre la décision. Une autre façon de prendre une décision est l'unanimité moins 1 ou moins 2. Ça va être donc permettre qu'il y ait une petite minorité qui ne soit pas d'accord. Ensuite, le seuil de la super majorité, ça veut dire 80, 90, 70, 60% comme majorité pour accepter une décision. Et ensuite, il y a d'autres manières. Mais revenons au consensus, à la diapo précédente. Excusez-moi, la diapo suivante.
Voilà, merci. Donc, nous avons ici une définition pour le travail du consensus. Donc, le premier point qu'on établit est qu'un consensus est une décision dans laquelle tout le monde a collaboré et que tout le monde a été engagé pour atteindre cette décision. Donc, ça veut dire qu'on a eu l'occasion d'exprimer nos opinions, et ceci pourrait avoir un impact dans le résultat. Et donc, la capacité d'avancer vers le consensus a trait au talent du modérateur pour s'assurer qu'on représente tous les points de vue. La deuxième est le choix que l'on peut tolérer, en fait. Et la troisième est une décision qu'on est bien... pour lequel on est prêt à mettre en place. Donc, en fait, est-ce que vous avez été dans des situations où on a pris une décision et deux semaines après, les gens viennent vous dire « En fait, je n'étais pas sûre que ce soit une décision. » Alors, si vous êtes le président ou vous êtes le modérateur de la réunion, vous devez faire cette question de façon explicite. Vous devez poser la question à tout le monde. Alors, est-ce que je comprends qu'on a atteint une décision? Et puis, circuler dans la salle, ou alors par téléphone, demander à tout le monde s'ils sont d'accord avec les décisions. Ou alors, on peut dire qu'il s'agit d'un sondage négatif et dire, est-ce qu'on a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette décision? Ou alors, est-ce qu'on a pris une décision? Ça y est, c'est fait. Alors, ce que je veux dire, c'est essayer de conclure de façon définitive. Merci. J'ai simplement une question. Donc, ce que vous décrivez est le type de problème qu'on a au sein de l'ICANN. Mais on a d'autres problèmes aussi. Le problème est d'avoir la capacité de participer. Et ceci ne veut pas dire que tout le monde va être préoccupé par la décision, même s'ils ont participé. Il peut y avoir des cas où les gens... volontairement ne participent pas, ils ne participent pas exprès, et puis ils vont dire « Non, en fait, je n'étais pas d'accord avec ce consensus. » Donc, on n'a pas de solution parfaite pour ce problème. Mais donc, je voudrais savoir comment on pourrait traiter ou aborder ce problème, si vous avez des suggestions. Bon, c'est un problème très épineux, très complexe, mais si vous voyez les meilleures pratiques des autres organisations qui ont les mêmes types de problèmes, ils envoient, en fait, des communiqués qui disent « Bon, on va avoir une réunion à telle heure. » Et donc, le propos de ce message est de dire aux gens que s'ils ne sont pas présents lors de la réunion, on va prendre des décisions quand même et que ceci sera établi et ce sera fait. Et donc, je pense que c'est très utile d'établir ceci comme ça. Parfait, alors on va continuer. Alors, encore une fois, on revient au sujet avec lequel on a commencé, c'est la précision, ouvert, précis et conclusion. Et donc, on va maintenant parler de la conclusion. Comment est-ce qu'on arrive à la conclusion pour prendre des décisions? J'ai participé à certaines réunions où la façon d'atteindre la conclusion est de dire, bon, on va prendre 2 heures pour commencer à faire des propositions. Et donc, si vous êtes le modérateur ou le président, il faut être très rigoureux pour passer d'une proposition et analyser une proposition à la fois. Et donc, on va dire, bon, on va conclure, on vient d'entrer dans l'étape de conclusion, mais on n'a toujours pas de décision. Alors, on voudrait que tout le monde présente ses propositions ou ses suggestions. Donc, on va écouter tout le monde et puis on va dire, bon, on va travailler sur cette proposition. Et puis, on amène cette proposition jusqu'où on peut. Et donc, peut-être que personne, qu'il y a une personne qui dit, bon, là, j'aime bien ceci, mais j'ai d'autres suggestions pour ajouter à ceci. Et donc, peut-être la personne qui a présenté la proposition accepte les suggestions des autres et on peut continuer à avancer pour la contre-proposition. Donc, une façon de conclure et de faire des propositions, comme je viens de dire. Une autre façon est d'essayer d'écouter les thèmes récurrents. Et si vous êtes le président ou alors un membre dans une réunion en tant que président, vous pouvez essayer de voir s'il y a eu ou pas un consensus, un accord entre les gens quant à ce qu'ils pensent serait la solution adéquate, la bonne solution. Et donc, parfois, la solution a été accordée, mais personne n'a dit, bon, on va voir où on en est. Et donc, peut-être il y a 6 personnes qui ont dit la même idée, ont exprimé la même idée de différentes façons. Et donc, on doit dire, bon, je pense que ce que vous dites est tel et tel. Et donc, en fait, essayez de voir s'il y a des tendances, des thèmes récurrents, si on peut atteindre un consensus à partir des différentes opinions. C'est une façon de former le consensus. Et puis, on va revenir au fait de lier les différentes possibles solutions aux critères d'objectifs, de buts, et voir si les opinions sont d'accord avec les critères qu'on a établis dans la première étape. Donc, si dans la première étape, on dit, bon, on ne peut pas ajouter davantage de personnes, alors ceci doit être conforme au but de l'organisation, on peut se servir de ces critères objectifs pour reconsidérer les objectifs et les propositions pour voir quelle est la meilleure. Et parfois, ce qui est mieux est de dire, bon, qu'est-ce que vous pourrez tolérer? Il s'agit de ce qui satisfera les besoins des membres pour pouvoir avancer avec une bonne solution, mais pas peut-être la meilleure. Alors, je veux voir s'il y a des questions, des commentaires avant de continuer. On vient de passer de ouverture à précision et conclusion. Je suis Sandra, membre d'ALAC. Et ma question est, en fait, parce qu'on est un groupe de personnes qui travaillent avec des contraintes temporelles et des différents fuseaux horaires, et donc on a des personnes qui ne peuvent pas participer des téléconférences, des réunions, des discussions. Et alors, si je passe toutes ces étapes et je trouve qu'on a un consensus entre les personnes qui sont en ligne, comment pourrait-on communiquer ces décisions aux personnes qui n'ont pas été incluses dans ce processus de décision? Je vais préciser, je comprends qu'il y a 2 parties dans ce que vous dites. D'un côté, comment inclure les gens qui n'ont pas participé de la réunion, et d'autre part, comment se rassurer qu'ils soient conscients de la décision qu'on vient de prendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, on va commencer par la première. Alors, combien d'entre vous connaissent les termes synchronicité, asynchronicité? Donc, dans des réunions virtuelles, ou peut-être si vous êtes en face à face et vous avez des réunions virtuelles en même temps, on a 2 façons de gérer le temps. D'une part, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. C'est le fait d'avoir tout le monde en simultané pour travailler sur le même problème. Probablement, le type de travail que vous avez est des gens qui sont présents à travers le téléphone parce qu'ils n'ont pas pu aller à la réunion. Et donc, ceci est en simultané parce qu'ils participent en même temps à travers le téléphone. Donc, on devrait structurer la participation de manière à ce que les personnes qui ne sont pas présentes puissent avoir du temps pour faire leurs commentaires publics. Donc, par exemple, lors de l'étape d'ouverture, on peut dire, bon, le groupe de gens qui ont participé samedi, ont eu ces idées telles que solutions possibles. Et puis, on a 24 heures de plus pour ajouter les idées de chacun à la liste proposée. C'est comme ça qu'on réunit les personnes qui peuvent aller à la réunion et celles qui ne peuvent pas, et que tout le monde puisse exprimer ses opinions. Est-ce qu'on a d'autres personnes avant de continuer qui veulent faire des commentaires? Parfait. Alors, on passe à la diapo suivante. Bien. Donc, j'ai quelques diapos sur le travail du leader. Et donc, si vous êtes le leader, ou alors vous pensez que peut-être vous pourriez avoir un intérêt à présider les réunions dans l'avenir, ceci pourrait être intéressant pour vous. Donc, on a ici certaines activités du leader. Il encourage la représentation effective et la participation des parties prenantes principales. Et donc, d'habitude, je me demande, lorsque je suis avec un groupe de personnes qui représentent d'autres personnes, je dis aux personnes de dire s'il s'agit de leur opinion ou alors s'ils sont en train d'émettre une opinion en tant que représentant des autres membres. Et donc, ceci leur rappelle qu'ils sont des personnes qui sont présentes dans la réunion, mais qui doivent représenter les intérêts des autres en même temps. Donc, faire attention et demander fréquemment, aider le groupe à atteindre leur but à travers des ordres du jour bien conçus et une bonne gestion de la réunion, identifier les besoins des ressources, les consultations. Et si, par exemple, on préside une réunion et on n'est pas des experts dans un certain domaine, le leader doit s'assurer que le groupe a les ressources intellectuelles dont ils ont besoin ou alors les ressources pour pouvoir ajouter au processus de conclusion et aider en même temps le groupe avec le processus de recherche. Donc, c'est de leur faciliter les données nécessaires. Voilà la partie la plus difficile de présider, c'est d'être dans la position de négociateur. Je vais alors revenir un peu sur ce qu'est la recherche. Est-ce que vous avez entendu parler du projet de négociation de Harvard? Vous connaissez ce projet de l'Université de Harvard? Bien, nous avons une ou deux personnes qui connaissent ce processus, ce projet. Et donc, peut-être le travail le plus important que l'on a fait sur le processus de négociation a été accompli par le projet de négociation de Harvard et l'équipe qui travaillait dessus. Et en fait, ceci est parce qu'on l'utilise aujourd'hui dans des centaines de milliers de réunions difficiles où les gens ont des différents d'opinions très forts. Donc, les résultats de la recherche sont très intéressants. Et en fait, ce qu'ils ont vu est qu'à chaque fois que l'on s'adresse à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord, on a un impasse et on n'atteint jamais le consensus. On ne peut pas atteindre le consensus si l'on a deux points de vue qui sont en conflit. Et donc, le deuxième point qu'ils ont constaté, le deuxième résultat, est qu'ils doivent arriver à un remue-ménage entre les gens pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils génèrent de nouvelles solutions. Et ceci serait acceptable alors pour les membres de cette négociation et de cette réunion. Et donc, par exemple, si vous avez deux alternatives et vous n'atteignez pas des résultats, c'est le bon moment pour dire, en fait, on est ici entre deux points de vue, c'est la bataille entre les deux, on va faire un remue-ménage pour voir si on peut atteindre une troisième ou une quatrième position pour voir si on peut résoudre ceci. Alors, les personnes, au lieu de discuter l'un contre l'autre, sont assis des deux côtés de la table et ils essayent de générer une solution entre les deux. Ils travaillent conjointement. Alors, on avance. Alors, pour résumer, qu'est-ce que le consensus? C'est la construction de ponts. Parce qu'à chaque fois qu'on se trouve dans une situation telle que celle d'ICANN, on a trois éléments présents à chaque fois. Et à chaque fois que vous allez dans une réunion, vous allez voir trois éléments présents. D'un côté, les gens sentent que le résultat de la réunion est important, donc l'importance. En deuxième lieu, le fait d'avoir des opinions fortes et qu'on a de différents points de vue pour le même problème, donc des différences d'opinion, et donc les émotions des personnes qui sont souvent négatives. Les personnes peut-être se frustrent ou alors se fâchent Ou alors, ils sont tristes, ils sentent qu'on ne leur tient pas en compte. Et alors, on essaie de bâtir des ponts pour essayer de trouver une vision, un point de vue commun. Et dans le processus et dans le projet de Harvard pour la négociation, on a vu qu'on doit considérer les différentes façons d'aborder ceci. Et puis, le processus n'a pas de consensus, on n'atteint pas de consensus. Et donc, si on veut améliorer la construction de processus, il faut apprendre plus sur le processus, maintenir des sessions de renforcement de compétences, inclure les gens, peut-être qu'on est des experts dans cette consultation de processus, et ceci va vous apprendre à le faire. Il faut en même temps écouter quelle est la tendance vers le consensus, parce que souvent, on a un progrès vers le consensus et peut-être qu'une personne devrait dire « bon, on commence à avoir un accord ». Et puis finalement, la seule façon d'atteindre un consensus est d'être créatif, ingénieux. Et donc, la personne qui s'exprime le plus n'est pas nécessairement celle qui va atteindre le consensus. La personne qui va construire le consensus ou les gens qui vont construire le consensus sont celles qui trouvent à chaque fois des voies qui ne sont ni une proposition ni l'autre, mais une nouvelle façon de l'atteindre. Alors, il est 11h30, je vais respecter l'horaire et vous remercier. Merci de votre atelier. Je suis Sergio Salinas Porto pour le procès-verbal. Je vais vous parler en espagnol. Et ce n'est qu'un commentaire. Je voudrais savoir si on peut accéder à ce matériel que vous venez de montrer sur l'écran. Et ce serait très bon de l'avoir pour pouvoir réfléchir à ce sujet. Donc, je voudrais savoir s'il était disponible et en même temps, si vous avez quelque sorte de confidentialité, si ceci aura un type de restriction par rapport à la propriété intellectuelle, etc., pour le répéter à d'autres, pour le passer à d'autres personnes. C'est une très bonne question, Sergio. Heidi, je vais préciser un peu. Est-ce que ceci sera disponible pour tout le monde? Comment ils peuvent y accéder? On peut le diffuser si vous le demandez à l'équipe à large. On pourra donc vous envoyer des copies de cette présentation. Heidi, vu qu'il s'agit d'un matériel qui est mien et que je travaille pour ICANN, il s'agit d'un matériel qui appartient à ICANN. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de restrictions et l'idée est que les gens s'en servent. Voilà comment je le conçois. Bonjour, je suis Madash Tiani pour le procès verbal. On va inclure un lien. On l'a inclus déjà dans le chat dès le début de cette séance. Je vais le reposter, ce lien, pour que vous ayez référence à ceci dans le futur. Est-ce qu'on a d'autres? Oui, Elad. Je suis Phyllis Yumas. Je suis aussi membre de l'équipe d'ICANN pour l'engagement et la participation. On doit poster ceci sur le site web. En fait, je pense que c'est une présentation excellente et ça devrait être disponible pour tout le monde, non seulement pour la LAC, mais pour tous les gens au monde. Bien, merci.